Je le confesse, je pédale un peu dans la semoule. En fait, j'ai pris un café décaféiné.
Oh, mauvaise idée.
Ouais, et en fait, je crois que ça me brouille mes repères.
Ah non, 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 c'est soit... Ça, c'est une vraie opinion qui sera pas coupée au montage. Non, non, c'est soit tu veux très peu de caféine.
Ouais.
Enfin, tu veux boire de l'eau chaude, quoi, et tu bois du thé.
Ouais.
Et dans ce cas, c'est agréable parce que tu peux choisir des bons thés et boire une vraie bonne boisson sans crainte de trop te mettre de caféine dans le sang. Soit tu bois du café, quoi. Mais oh, café décaféiné, quelle tristesse.
Tu vois, c'est le monde moderne un peu, c'est ça des fois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment où une envie irrationnelle devient un marché potentiel. Et c'est le moment où l'humanité bascule dans la monstruosité. Par exemple, le fait de vouloir le goût du café sans les effets du café. Ou bien un steak qui n'est pas un steak.
J'aurais des choses à dire sur les steaks végétaux, mais je risquerais de passer pour un encore plus vieux con que je ne suis vraiment.
J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, ouais.
Et c'est pas faute d'être sur le chemin vers le végétarisme, mais j'ai des choses à dire sur le steak végétal. Mais continue, pardon.
Non, mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Enfin, faut assumer la différence, tu vois. Enfin, comme tu dis, il faut soit choisir très peu de caféine dans ce cas-là. Enfin, on réinvente un truc. On est sur un nouveau mode d'alimentation. Pourquoi copier
La chicorée?
la chicorée?
Moi, j'aime beaucoup la chicorée.
C'est un excellent. Et en plus, j'ai du ricoré dans mon placard là. Ami ricoré.
Et en plus, c'est une excellente source de fibres.
Oui. À propos de fibres.
Je sens la transition, vas-y, vas-y, vas-y.
À propos de fibre, qui est aussi un moyen de connexion aux internets, et quand il dit connexion, dit connecté, moi, ce dont j'aimerais parler avec toi aujourd'hui,
Je te déteste.
une des conversations qu'on a depuis très longtemps, comme tu le sais, je pense. Enfin, je suppose, parce que j'espère que tu es conscient qu'on a ces conversations. Et c'est au sujet des objets connectés. Je sais pas si tu te souviens de ce compte Twitter qui s'appelle The Internet of Shit, qui est quelque chose de brillant à mon avis, qui répertorie tous les dysfonctionnements, toutes les contradictions, tous les paradoxes qui sont dans les objets connectés, notamment. Enfin, c'est très large. Et ayant travaillé un peu dans les objets connectés de mon côté aussi, j'avoue que je vois parfois ces contradictions à l'œuvre. Et tu me disais de ton côté que tu cherchais à déconnecter ton appartement de plus en plus. Et ça m'intrigue beaucoup, donc j'aimerais que tu développes.
C'est vaste comme question.
C'est une vraie question, cela dit, parce que de mon côté, tu vois, je t'ai acheté un HomePod mini pour accompagner la télévision, tout ça, enfin voilà, faire une barre de son, on va dire. J'ai quelques objets connectés. Enfin, ce qui marche le mieux pour moi, ce qui est connecté, qui marche le mieux, ce sont les ampoules, les Philips Hue, qui pour le coup marchent quand même très bien et je pense apportent un plus par rapport à ce qui existait auparavant, puisque elles ont l'interrupteur physique et réagissent de la même manière. Et en plus, derrière, tu peux les régler comme tu veux. C'est pas juste un remplacement auquel il manque des choses par rapport à l'original.
Alors que pour moi, j'ai commencé la déconnexion par les ampoules.
Ah ouais?
Le problème que j'ai, et c'est d'ailleurs là aussi la raison pour laquelle je t'ai revendu le HomePod mini, quand on réfléchissait à la modélisation, au dessin animé et à la conception 3D, où tu sais, tu as cette Uncanny Valley,
Oui.
où tu as, quand tu vois vraiment que c'est fait à l'ordinateur et qu'il y a un côté, c'est mal fait. Typiquement les tout premiers films de Pixar, quoi, où il n'y a pas de prétention au photoréalisme, tu sais que c'est pas photoréaliste, et donc ça passe très bien. Et à l'autre extrême, tu as ce qu'on peut voir maintenant dans certains jeux vidéo, ou tout simplement ce qu'on voit avec même les techniques de doublage numérique, hein, où on est capable de créer un jumeau numérique, ou le deepfake, ou des choses comme ça, et où là, tu es sur des choses très photoréalistes, et on ne peut plus distinguer la réalité de la fiction. Et puis tu as tout ce qui est au milieu, cette espèce de vallée de l'étrange, où ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est ni assez photoréaliste, ni clairement mal foutu. Et donc on est dans cette espèce on a le cul entre deux chaises, et c'est pas très confortable, et c'est moche. Et j'ai un peu la même réflexion avec la domotique, mais enfin, ça pourrait s'impliquer à l'informatique de manière générale, hein, mais avec la domotique en particulier, parce que c'est finalement une approche très corporelle de l'informatique. Je veux dire, manipuler des interrupteurs, ouvrir une serrure, des choses comme ça, c'est vraiment un des moments où t'es en conflit physique avec l'informatique, quoi. Et où, quand c'était les premières ampoules connectées, qui étaient connes, hein, fallait un pont pour les connecter, il fallait absolument utiliser une application, il n'y avait pas encore ces systèmes où maintenant on commence à avoir des interrupteurs, des choses comme ça. Et le rêve extrême qu'on a dans certaines maisons à plusieurs millions d'euros, mais on n'en est pas encore là, toi et moi, de la maison qui réagit toute seule, qui réagit à son environnement, qui réagit à la présence de telle ou telle personne, qui est capable de savoir, tiens, cette personne a la chaud, donc on va mettre plus de clim. Entre ces deux extrêmes-là, bah, t'as cette espèce de vallée de l'étrange où c'est ni suffisamment rudimentaire, ni suffisamment complexe et affiné. Et moi, j'ai l'impression qu'on est justement dans cette vallée de l'étrange par domotique, et je me retrouve très souvent confronté à... Soit c'est... À quelque part, c'est déjà trop intelligent pour ne pas être inutile et pour ne pas être ignoré. C'est-à-dire c'est trop intelligent pour que tu l'ignores et que tu le laisses dans son coin, mais c'est pas encore assez intelligent pour que tu puisses au contraire l'ignorer et le laisser faire son truc tout seul.
Un peu comme Philippe, mon frère, se plaignait à un moment de son robot aspirateur, qui pour le coup, je sais plus s'il est connecté ou pas, mais le fait est que, bon, c'est... quand il s'en mêle dans les câbles et tout, il bip dans tous les sens et t'es obligé d'aller chercher, quoi. Et c'est toujours pareil.
Mais du coup, ça devient presque plus chiant qu'un vrai aspirateur, parce qu'un vrai aspirateur, tu sais très clairement, là, il faut que je fasse le ménage, il faut que je sorte mon aspirateur. Mais quand tu t'en sers pas, il est rangé.
Exact.
Il n'y a pas de... Si tu veux, c'est un fonctionnement très binaire, alors qu'un aspirateur intelligent, oui, ça marche, sauf que parfois, il se met en route à 4h du matin, et que parfois, il s'en met dans les câbles. Et donc, tu es dans cette espèce de zone grise qui est chiante.
Qui est chiante parce que... Peut-être que c'est une question un peu de hubris aussi, parce que je repensais à Tesla, tu vois, qui doit réinventer la manière dont il voit dans la voiture voit la route, et donc réapprendre en fait, alors qu'il y a des objets, enfin il y a des radars, ce genre de choses qui existent déjà, ils reprennent de zéro en fait l'approche de ce que voit la voiture et de comment il réagit à ce qu'elle voit, et sachant que sur une route il peut plus ou moins tout se passer, quoi, c'est très 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 vaste.
Et si tu veux, ce serait 100 fois plus facile de dire on crée un nouveau système et la ville devient une partie d'un grand système informatique dans lequel finalement l'automobile n'est qu'un des éléments. Et donc là, non, au contraire, on est dans ces espèces de vallée de l'étrange où il y a rien ne communique correctement et tout fonctionne très bien de son côté. Et dès que, parce que c'est des systèmes et dès qu'il y a une interconnexion, c'est compliqué et ça casse.
C'est le problème des systèmes, en fait.
Ouais. Mais si tu veux, et c'est quand même fou qu'on ait créé des problèmes avec les ampoules connectées, qui est, il faut passer par une application pour les allumer, il faut qu'elles soient toujours alimentées, parce que si elles ne sont pas alimentées, elles ne peuvent pas être connectées, donc il faut laisser l'interrupteur ouvert, ou enlever l'interrupteur, et on voit de plus en plus de maisons où il n'y a pas de véritable interrupteur.
Ce qui, pour le coup, me gêne beaucoup. Ouais.
Non, mais terrible. Mmh. On a ça au bureau, on en parlera, c'est affreux, hein, c'est affolant. Mais pour régler ce problème-là, qu'est-ce qu'on a réinventé ? L'interrupteur. Et on nous vend des interrupteurs à 60-70 euros. Alors oui, ils ne sont pas collés au mur. Attention, hein, on a inventé l'interrupteur sans fil. Mais on a réinventé l'interrupteur. Donc au final, on a perdu 10 ans pour rien. C'est-à-dire, s'il faut utiliser un interrupteur, oui. L'exemple parfait, c'est... Ma cuisine, quoi, où donc on a posé une nouvelle cuisine dans laquelle j'enregistre présentement.
Elle est très belle, hein. Je vois la caméra de mon côté, franchement c'est un chef-d'œuvre, magnifique.
Alors, malheureusement, la vision en podcast, ça marche assez mal, mais magnifique, superbe, j'en suis très heureux. Et parce que c'est la Covid, on n'a pas forcément eu le choix de certaines choses, et notamment on a eu la surprise de découvrir qu'ils nous avaient upgradé l'éclairage, puisque l'éclairage de base n'était plus disponible, donc on nous a mis un éclairage connecté. Et donc l'éclairage qui est sous les meubles, il y a un petit boîtier qui est tout en haut des placards, de temps en temps je le vois biper la nuit, là, il fait des petites loupiottes bleues, et du coup j'ai un interrupteur, sans fil, mais un interrupteur. Alors il est sympa mon interrupteur, je vais... Hop. Je l'ai dans la main, c'est cool, je peux allumer la lumière, je peux changer la couleur et je peux changer la puissance, c'est génial. Enfin c'est un interrupteur quoi. C'est-à-dire que ça change absolument rien... au quotidien, un système qui ne serait pas connecté.
Alors, quel est le souci de base ? Est-ce que c'est de voir un problème là où il n'y en a pas ? pour essayer de le résoudre de manière, du coup, forcément, qui va être au moins égale à la solution existante, et sinon pire, en fait. Au mieux, elle sera la même chose.
C'est ça. Le problème, c'est qu'au mieux, c'est la même chose. Alors, la même chose avec, dans le cas des lampes, la même chose avec des petits agréments supplémentaires. C'est vrai que la possibilité de changer la couleur, par exemple. Tu peux dire, voilà, quand je cuisine, j'ai une couleur très blanche, et le soir, quand je travaille, j'ai une lumière très jaune. Bon, d'accord, c'est sympathique. Mais est-ce que ça valait bien la débauche d'énergie, la débauche de moyens et le coût, parce que bon, on n'a pas payé le coût supplémentaire, mais je suis allé revoir la fiche après, c'est incroyablement cher.
C'est très cher.
Pour faire ça, quoi. Ou dans le même genre, parce qu'on a eu la même surprise avec le lave-vaisselle, où le lave-vaisselle qui était prévu n'était plus disponible, donc on nous a mis le top de la pop de chez Siemens, qui est chouette, hein. Il est connecté, donc pareil, hein, il prend une IP sur le réseau Wi-Fi. Parce que pourquoi pas. Donc c'est chouette, on peut démarrer notre lave-vaisselle depuis notre canapé sans avoir besoin d'aller jusqu'au lave-vaisselle. Génial. Et là où c'est dément, c'est que ce truc est quand même capable. Tu lui dis, quand t'achètes une nouvelle boîte de pastilles, tu lui dis combien de pastilles il y a dans la boîte. Et donc il compte à chaque fois que tu mets une pastille, quand tu lances un cycle de lavage. Et quand tu arrives à moins de X pastilles, non seulement il t'envoie un message pour te dire « Attention !» t'es quasiment à la fin de tes pastilles, mais en plus, il est capable, il s'interface automatiquement avec une boutique en ligne, et il est capable de commander tout seul tes pastilles favorites. Donc c'est bien, tu reçois tes nouvelles pastilles, mais enfin, la pastille, il faut la mettre dans la machine. Le colis, il fallait le chercher. Donc au final, qu'est-ce qu'on a fait avec cette connerie ? Non seulement on m'a pas résolu mon problème, qui est je peux quand même tomber en panne de pastilles, parce que si mon colis, il arrive pas, bah, je tombe en panne de pastilles, mais en plus, on m'a créé une nouvelle obligation.
Oui, puis sans compter qu'au final, tu dois quand même remplir et vider le lave-vaisselle.
En plus.
C'est ça le vrai problème, à mon avis.
Donc mon lave-vaisselle est resté déconnecté. Et ça ne change rien, quoi. Donc, bon.
Mais du coup, ce que tu dis sur le processus, enfin sur le fait que la machine te lie à quelque chose, un acte d'achat en l'occurrence pour ses ressources, c'est très intéressant pour son obsolescence après aussi. Parce que le nombre de machines qui ont été lancées, tu vois... on se souvient du Nabastag, on se souvient de pas mal de... Enfin, j'ai des amis qui avaient acheté un robot aspirateur sur Kickstarter, et le temps qu'ils le reçoivent et l'installent, en fait, le robot était devenu obsolète, il ne faut plus s'installer dans l'application. Donc, qu'est-ce que tu... Enfin, tu vois, c'est des choses complètement absurdes. En termes de gâchis, en termes de coûts, en termes de tout ce que tu veux, enfin, ça ne coche aucune case, quoi. Quand le système ou son infrastructure font défaut, tu te retrouves dans une situation vraiment très complexe, en fait. Mmh. Tu es dans l'impossibilité de faire des choses que tu pouvais faire sans connexion. Parce que je pense au Philips Hue, là, tu vois, marche encore avec l'interrupteur normal, tu vois. On peut éteindre, allumer, ça fera une ampoule normale, bon. Et c'est pour ça que je les aime bien, en fait. C'est qu'il y a quand même ce minimum vital, tu vois. Mais ça aurait été une autre marque qui, en fait, dès qu'il n'y a plus de Wi-Fi ou je sais plus quoi, enfin, tu vois, n'allume même plus de lumière, par exemple. Enfin, ça aurait été vraiment compliqué, quoi.
Oui, c'est ça, où tu as des systèmes qui, quand tu perds ton réseau local, et ça, c'est super commun, hein, y a évidemment le cas où, quand tu perds ton serveur central, on a eu le cas il y a quelques mois avec les pannes, avec certaines pannes d'Amazon, Amazon Web Services, où tu te retrouves avec des gens qui ne pouvaient pas rentrer chez eux parce que leur serveur connecté devait absolument passer par AWS.
C'est dramatique, ça.
Ça, c'est dramatique, mais tu as encore plus dramatique qui est le cas où, quand tu perds simplement ton réseau local...
Ouais.
Donc, je sais pas, bon, au hasard, une panne d'électricité, ce qui sont des choses qui arrivent, hein, où soudainement, bah, tu peux plus rentrer chez toi. Tu peux plus ouvrir certaines portes, tu peux plus opérer certains appareils qui sont pas électriques, quoi. Des fenêtres ou des portes, c'est pas des choses qui sont électriques. Tu t'attends à ce que ça fonctionne quand il y a une panne d'électricité. Et où ça devient dangereux, hein, parce que panne d'électricité, potentiellement, c'est parce qu'il y a un incendie, quoi. Et si au moment où il y a un incendie, il faut que tu sortes le manuel pour te souvenir de comment est-ce qu'on désarme ta serrure manuellement, pour autant qu'on puisse le faire, ce qui n'est pas toujours le cas, on est quand même sur des trucs...
Ouais.
Et moi, ça me... Je réfléchis beaucoup à la question des numériques situés ces derniers temps, donc cette idée de comment on fait du numérique qui est sensible à son environnement au sens premier du terme, quoi, ce qui l'entoure, ce qui l'environne.
Géographique.
Géographique. Enfin, je le vois au bureau, quoi. Au bureau, on a acheté le bureau d'à côté pour étendre la surface et on en a profité pour faire des travaux. Donc à côté, c'est entièrement connecté. La pauvre femme de ménage qui est venue cette semaine, il a fallu qu'on lui explique comment allumer la lumière à côté. Et donc, parce qu'il n'y a pas d'interrupteur. Donc, bah, comme la plupart des femmes de ménage, elle est française d'origine étrangère, donc elle a un fort accent. Donc, quand il faut dire « Dis Siri, allume la lumière », il faut qu'elle s'y reprenne à 4 fois, ce qui est quand même un peu embêtant.
C'est monstrueux.
Mais même nous, au quotidien, quoi. Je veux dire, quand on va aux toilettes, on est quand même sur des trucs assez incroyables, où quand on ouvre la porte, derrière la porte, il y a un détecteur de mouvement, et c'est le détecteur de mouvement qui communique avec le réseau pour allumer une ampoule. On est sur des trucs... alors que bon, quand t'as ouvert la porte, ta main, elle est à 12 cm de l'interrupteur. D'un point de vue environnement géographique, si tu veux, ça va plus vite d'appuyer sur l'interrupteur que d'attendre que le réseau réponde, quoi. C'est... Puis je sais pas, pisser devant un détecteur de mouvement, ça me... Je sais que c'est de l'infrarouge, mais ça me laisse toujours songeur. Mais je... Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça où je me dis, mince, quoi, on est... On crée des systèmes lointains, parce que ce soit je communique avec un routeur à la maison, bah, au lieu d'avoir un interrupteur à 10 cm, c'est un routeur qui est à 5-6 mètres, ou carrément je communique avec un serveur qui est à l'autre bout du monde, parce que parfois c'est des services américains, pour faire des choses à l'échelle du mètre ou à l'échelle du centimètre parfois. Et moi ça me laisse songeur, quoi. Alors que tu peux faire des choses qui sont situées. Là, par exemple, on est en train de changer nos radiateurs. On n'achète pas des radiateurs connectés. Quand on achète des chauffages à inertie, donc des bains d'huile ou des choses comme ça, ou maintenant on fait pas mal d'inertie sèche, donc avec de la pierre, il n'y a pas besoin de les connecter pour que ces trucs soient intelligents. Ils ont des capteurs infrarouges pour détecter qu'il y a une porte qui est ouverte ou une fenêtre qui est ouverte. Ils ont 2 sondes de température pour avoir la température au sol et la température un peu plus haut. Ils savent la température de la pièce. Et donc, en fonction de ça, certains, ils ont d'ailleurs un petit capteur que tu peux mettre à l'extérieur aussi. Et donc, en fonction de ça, en fonction de quelque chose qui est très situé, quoi, qui est immédiat, à quelques centimètres, à quelques mètres, ils adaptent leurs conditions. Il n'y a pas besoin de communiquer avec un routeur, il n'y a pas besoin de communiquer avec Amazon Web Services ou avec Google Cloud ou avec je ne sais quoi. Tu peux réincarner ça, tu peux remettre ça en local, tu peux... Encore une fois, il n'y a pas besoin de connexion pour faire de l'intelligence. Le souci, c'est que parfois, on a tendance à penser... Tu sais, on parle de maison intelligente. Parfois, la maison intelligente, c'est la maison qui n'est pas connectée. La maison passive...
Oui, oui, elle est bien plus intelligente.
La maison qui est bien conçue, la maison qui gère ses flux d'air, la maison qui a, dont on a pensé l'orientation, dont on a pensé la position des fenêtres, dont on a pensé... là, il y a de l'ombre, il n'y a pas de l'ombre. Là, il y a un courant d'air, il n'y a pas de courant d'air. Elle n'est pas connectée, elle est littéralement passive. Bah, elle est plus intelligente que l'appartement mal foutu qu'on a construit à 2000 exemplaires et qui est bardé de capteurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever tous les capteurs. Hein. Parfois, c'est bien, notamment quand on parle de chauffage ou de climatisation. Mais merde, quoi. Il y a une confusion entre connexion et intelligence qui m'agace un peu, qui me frustre un peu et me fait un peu peur pour le futur, parce qu'on est en train de créer des systèmes que l'on croit intelligents qui sont en fait des systèmes incroyablement faibles parce qu'ils sont pas résilients
et surtout ils sont impermanents en fait.
Oui,
c'est, le truc c'est que ça non seulement ça apporte je vais utiliser encore un terme de start-up, on l'avait déjà dit la dernière fois, une friction, n'est-ce pas, un peu différente, mais bon, quand ça fonctionne pas, c'est une horreur, et c'est voué en fait à avoir une durée de vie moindre que ce que ça remplace. De par le fait, sa dépendance en fait à plusieurs niveaux, il y a plusieurs strates de dépendance en fait. Là où on va dire aujourd'hui il y a un interrupteur recommande une lumière, il y a une strate relativement faible de dépendance qui est bah, l'action sur l'interrupteur, l'état de l'ampoule et le réseau électrique. Après, si en plus on ajoute à ça le réseau, la connexion, donc l'infrastructure web éventuellement, ce genre de choses, enfin, il y a énormément de ça se déroule beaucoup, quoi. Et plus on ajoute de dépendance, moins c'est permanent, naturellement.
Et le souci, c'est qu'il y a une espèce de solutionnisme technologique.
Ouais. Ah ouais, ouais, c'est un biais là, quand même.
Et donc on te pour résoudre des problèmes créés par la technologie.
Plus de tech.
On te met plus de technologie, donc il y a une espèce d'emballement comme ça.
Ouais.
Et donc on crée des systèmes qui sont de moins en moins résilients parce que ben on multiplie les points de faille, comme tu le dis très bien, quoi. C'est-à-dire qu'on ajoute des couches aux couches. et donc c'est plus seulement il faut que je gère ma balance qui se connecte à Withings qui utilise AWS, mais en plus il faut que je gère mes ampoules qui se connectent à machin qui se connectent à Trucmuche et tel autre système et tel autre machin et tel autre Trucmuche. Le tout est collé avec soit HomeKit, soit IFTTT, soit je ne sais quoi. Donc on a comme ça à la fin je sais pas, 50, 60, 70 couches qui s'empilent. Et quand, parfois, quand il y en a une qui craque, eh ben elle emporte toutes les autres.
C'est même plus loin que ça, je pense que je pensais à quelque chose qui m'était arrivé avec. J'avais le capteur Weezings, à l'époque c'était Aura, qui est devenu Weezings Sleep. Dieu merci d'ailleurs, c'est devenu Weezings Sleep, même si le nom en France peut faire jaser. Et donc c'est ce capteur qui se met sous le matelas et qui analyse le sommeil. Et il est connecté à IFTTT, enfin il est connectable à IFTTT, et du coup il suffit de se coucher ou se réveiller pour lancer une action par exemple. Et j'avais mis. Je crois que c'était l'extinction des lumières quand je me couchais. Quand j'allais au lit, les lumières s'éteignaient, quoi. Dans le salon, par exemple. Dans l'appartement précédent où que j'occupais, je comprenais pas pourquoi, à heure fixe, la lumière s'éteignait. Alors que moi, j'étais en train d'étudier dans le salon tranquillement et puis qu'Adrien allait se coucher. J'ai vite compris, en fait. Bon, c'était un vieux truc que j'avais croyé avoir viré et en fait qui n'était pas viré. Donc je pense que, par exemple, scénario horrible, mais imaginons que tu décèdes ou X chose, tu n'as plus accès à la plateforme. Le système survit sans toi. Enfin, tout le monde doit. Enfin, les gens qui restent doivent se débarrasser du système complet, en fait.
Mais même sans mourir, c'est des histoires
Oui, là,
d'horreur que
c'est extrême, mais.
c'est des histoires d'horreur que tu vois maintenant assez régulièrement. On voit maintenant du harcèlement numérique, et on voit en général c'est des compagnons qui harcèlent leurs compagnes, c'est rarement dans l'autre sens, mais on voit des mecs qui terrorisent leurs gonzesses en utilisant la localisation sur le téléphone, en utilisant les caméras à la maison, les systèmes connectés. Ah bah non, là tu devrais pas. Moi je suis en déplacement, tu devrais pas être dehors à 22 h. Et puis quand tu vas rentrer, je vais fermer la serrure derrière toi et je vais éteindre la lumière. Enfin, et on voit des trucs et où bah les filles elles sont démunies parce que c'est pas forcément un truc qu'elles ont installé elles-mêmes, elles ont pas les accès. Donc je veux dire, bah, si tu sais pas comment débrancher ceci, comment débrancher cela, est-ce que si tu débranches, tu vas pas casser quelque chose, bah tu fais pas. Et on a, bah voilà, on a créé de nouvelles structures d'oppression. Génial.
Voilà, c'est ça.
Et on a créé de nouvelles rentes. C'est-à-dire, on se plaint, ah, on paye trop de choses, on paye trop de ceci, on paye trop de cela. Et puis finalement, toi, non seulement t'achètes du matériel, mais derrière, faut payer. Enfin, les couillons qui achètent des caméras domestiques en se disant non, alors moi, je veux absolument la Homecure Secure Vidéo parce que tu comprends, c'est mieux, c'est plus safe. Mais derrière, faut qu'ils achètent du iCloud. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'enferment chez Apple. Donc, il y a toute une cascade de décisions comme ça. Donc, les types peuvent plus switcher facilement sur Android. Donc, ils se sont complètement enfermés dans un truc et ils payent, non seulement ils ont payé leur matériel, mais ils doivent payer chaque mois une redevance, une rente pour avoir l'insigne droit d'utiliser leurs propres appareils.
La gabelle, quand ça marche, bien sûr.
Quand ça marche. Et on est quand même sur des trucs.
Ben c'est ça, je déteste les gens qui disent nanana, les ordinateurs, c'est des menottes numériques, mais là, quand même, c'est peut-être le seul moment où c'est vrai, quoi. Enfin, c'est quand même consentir à l'intrusion d'un côté d'un tiers, et de l'autre côté, remettre dans cette volonté externe certains choix de vie, quoi. Ni plus ni moins, c'est des choix de vie.
Et pour régler des problèmes qui sont quand même, enfin, je veux dire,
Dérisoire, quand même,
ah
dérisoire.
mince chérie, j'ai oublié d'éteindre la lumière du salon. Si c'était beaucoup plus intelligent, peut-être que oui, ça vaudrait le coup. C'est-à-dire que le jour où on pourra faire des automatisations, par exemple, pour parler de HomeKit, où en fonction de la température, non pas seulement en fonction de la température extérieure, mais en fonction de la température à l'extérieur et à l'intérieur, et des gens présents, c'est-à-dire monsieur qui préfère quand il fait plus froid, madame qui préfère quand il fait plus chaud, ou l'inverse, peu importe, et leurs invités qui ont chacun leurs préférences aussi, on va chauffer comme ceci, comme ceci, comme cela. Tu vois, le jour où on arrive à ça, là, peut-être que tu peux commencer à te dire, oui, ça devient sympa. En étant, par exemple, mais en allant très loin, parce qu'il faudrait aussi penser, il faudrait essayer de connecter à l'ensemble de la grille électrique, c'est-à-dire savoir que là, par exemple, on a une intensité carbone qui est plus forte parce que, il a fait particulièrement mauvais les éoliennes, on a été obligé de couper les éoliennes parce qu'il y a trop de vent, on a un mauvais rendement sur les panneaux photovoltaïques, donc, et nos centrales nucléaires, on en a débranché plus vite qu'on a installé de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes. Donc, on a dû redémarrer une centrale à charbon. Et ben là, peut-être que c'est pas forcément le bon moment pour chauffer à 21 degrés plutôt qu'à 20 degrés. Mais tu vois, il faut quand même aller. C'est pas seulement résoudre des petits problèmes en local, c'est repenser complètement l'intégralité des systèmes et des technostructures. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un pas à faire, quoi, pour que ça devienne non pas seulement utile, mais incontournable.
Bah, surtout, je pense que même c'est carrément une révolution au sens littéral du mot, parce que les technologies connectées, quand même, par nature, servent des intérêts très égoïstes, très individuels. On peut être égoïste à deux, bien sûr, hein, j'entends ça au sens, même au sens familial, enfin, ça reste au maximum une maison, quoi. Et ouais, je pense que c'est. Enfin, actuellement, en tout cas, la manière dont c'est fait, dont c'est marketé et dont c'est produit, ne rentre pas du tout dans les cases que tu as évoquées. Je pense qu'il faut tout refaire de zéro, là. En termes philosophiques, c'est pas du tout conçu comme ça et pour ça. C'est toujours vendu avec des. Enfin, la preuve étant que ce sont des systèmes qui sont pas fiables, ce sont des systèmes qui sont pas durables, et du coup qui s'adressent pas au long terme du tout, quoi.
Je crois qu'il y a une critique politique à faire, c'est-à-dire qu'on a tendance à oublier que la Silicon Valley est quand même beaucoup moins progressiste qu'on aurait tendance à le dire. À la fin, c'est un repaire d'affreux libertariens et les libertariens, contrairement à ce qu'ils prétendent, sont en fait de gros conservateurs. Et comme tu le dis, enfin tu le dis très bien, au final, ces technologies-là, elles sont au service de l'individu, alors qu'elles trouveraient leur plus grande utilité au service de la collectivité. Parce qu'à la fin, communiquer, quand on parle d'appareils connectés, connecter des appareils entre eux. Faire communiquer les appareils entre eux, c'est-à-dire concevoir non plus l'appartement ou la maison comme une petite unité de vie, mais comme un réseau de capteurs interconnectés, bah, tu peux connecter une maison, tu peux connecter un quartier, tu peux connecter une ville, tu peux connecter un pays, tu peux connecter la Terre. Et là, ça commence à être intéressant. Là, ça commence à être transformateur socialement. C'est-à-dire, on parle d'économiser de l'électricité, enfin d'économiser de l'énergie. Là, tu peux commencer à jouer, quoi. Le jour où tu es capable d'utiliser les batteries dans les voitures électriques et dans les vélos électriques et dans les gros moyens de transport électriques avec le capteur qui est à l'intérieur de la maison en fonction des conditions de la grille électrique, là, on commence à parler. Là, on commence à voir justement le rôle transformatif des technologies et la technologie pour le meilleur et dans son meilleur. Mais si c'est juste, je vais utiliser une débauche de moyens. Et une débauche d'énergie, et une débauche de connexion pour éteindre la lumière dans le salon quand j'ai oublié de le faire, ça me laisse un peu. Ça me laisse un peu de marbre, quoi. Ça va pas très loin, quoi. Et si ça va pas très loin, bah, c'est pas de la technologie qui m'intéresse beaucoup, quoi. Voire je la trouve activement mauvaise parce que ça
C'est pas un
donne aux
agent
gens.
de.
Ça... Ouais, puis ça donne aux gens l'impression que la technologie, c'est ça, quoi.
Exactement. C'est ça le truc, c'est que c'est toute une éducation à faire. Toute une génération, enfin, toutes les générations, même en cours, sont habituées, enfin, s'habituent à ce mode de production et d'usage de la technologie.
Et c'est pas ça.
C'est pas ça.
C'est pas ça la techno.
Enfin, en tout cas, ça
Enfin, la
devrait
bonne
pas être
techno.
ça.
Ouais.
Parce que, enfin, d'un autre côté, sans vouloir être pessimiste, mais je vois pas trop de changement à ce niveau-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait même une ébauche de tentative au niveau collectif, local, d'adaptation à la technologie à ce niveau-là, quoi.
Non, y a par exemple le projet Matter qui est
Oui.
cette idée d'interconnecter les systèmes entre eux, donc de faire parler des appareils Google avec les appareils Apple, avec les appareils Amazon, mais où on reste à une échelle très individuelle.
C'est ça.
Et où les rares projets collectifs, par exemple Amazon avec Ring qui est capable de donner le flux vidéo de ses serrures à la collectivité, mais enfin, c'est pas à la collectivité, c'est aux flics.
Oui.
Avec une définition extraordinairement négative des choses et un cadre qui est supralégal, quoi, parce que la Constitution américaine, dans le cas d'Amazon, elle est foulée aux pieds, quoi, il y a, avec ce programme. Donc il y a quand même. C'est à la fois très peu ambitieux et incroyablement dangereux dans sa médiocrité.
Oui,
Ce
c'est
qui est quand
ça.
même un paradoxe assez incroyable, quoi. Ça pourrait être tellement mieux, et en étant tellement mieux, ça pourrait être tellement plus transformateur. Et du coup, ce serait mieux au carré, quoi, parce que ce serait cumulatif et exponentiel. Alors que là, on est dans une espèce de médiocrité ronflante, quoi.